parce que j'enregistre mes cours de chant pour pouvoir répéter avec le mon prof.
C'est mignon.
Et du coup voilà.
Ça te sert d'intro du coup.
Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast sur la culture pop en général et surtout en particulier. Nous sommes au quatrième jour de Cérémania et j'ai vraiment, mais vraiment kidnappé, parce que je n'aurais pas laissé le choix, je les ai prévenus il y a 30 secondes, deux charmants camarades pour parler avec moi de série aujourd'hui. J'ai Stéphane et Capucine. Coucou Stéphane.
Bonjour.
Bonjour.
Maintenant on va mettre le téléphone au milieu, donc si vous voyez mal, c'est pas de notre faute, c'est la faute du bruit. On va plus ou moins parler de trucs qu'on a vus hier et aujourd'hui pour que ce soit plus simple. Mais là, donc viens dans le podcast. Dom, j'ai même pas pensé.
Je tiens à annoncer je quitte ce podcast définitivement.
Mais non, mais
elle se barre derrière des tuyas. Elle enregistre un podcast alors que je suis à 3 mètres. Je trouve ça honteux et je voulais juste intervenir là-dessus. Et c'est terminé. Adieu. Enfin, comme Sheila, je reviendrai la prochaine fois. Mais...
Tu viendras parler de Benoît Hagan. Je te fais signe quand on parle de Benoît.
Je viendrai parler de Benoît Hagan. Si, je suis toujours là.
Reste pas loin. D'accord. Ok. Alors, on va commencer par. Moi, je veux juste commencer par dire que je vais pas parler d'un truc. On a vu les pilotes de la Fémis hier, j'ai plein de soucis, notamment pas tant sur le talent et le potentiel de ces jeunes auteurs que sur l'encadrement scolaire qui les a amenés à faire passer certaines choses dans ces pilotes-là. Sachant que moi je suis enseignante d'une formation d'écriture série, je ne suis peut-être pas complètement... Je sais pas, peut-être que je suis biaisée. En tout cas, du coup, je ne vais pas en parler vraiment. Je pense que je vais peut-être écrire quelque chose dessus. Voilà, parce que ça mérite, surtout quand tu as posé des questions de fond, ça mérite un meilleur traitement. Mais j'ai vu les trois pilotes de la Fémis. Et si vous voulez savoir mon avis en message privé sur Twitter, allez-y. En gros, je pense qu'il y a plein de choses qui sont bien faites. Et hashtag, celle du milieu, l'auteur a des vrais trucs à dire. Pour les autres, je pense qu'il y a un gros souci de concept et qu'on leur a pas appris à penser un concept de série. Bon, voilà, ça c'est mon opinion.
Une petite question, il y en a une qui va que tu vois potentiellement arriver à la télé ou pas? Comme Irresponsable avait été montré par le pilote.
J'ai pas vu l'état du pilote d'Irresponsable. Ouais. Après, il y a potentiellement des trucs à la télé. Le problème, c'est que dans le système de l'industrie télé française, on n'est pas sur reconnaissance d'une compétence sérielle égale diffusion.
Ouais,
on est dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc, du coup, voilà.
Et aussi, le pilote d'Irresponsable avait été retourné.
Je préférais celui de la Fémis.
Voilà, mais non, mais en tout cas, il avait été retourné. Après, peut-être qu'effectivement, un producteur va le voir, mais il peut effectivement retravailler le truc et tout. Bon, après, moi, je trouve que c'est surtout bien réalisé plutôt que bien écrit, ce qui est un peu problématique vu que c'est un peu un cursus d'écriture.
Voilà.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne se sont pas posé de questions conceptuelles. J'ai dit que je parle, j'en parlais pas et j'en parle. Bon, passons. On va parler d'un truc que toi, t'as vu, Stéphane, dont je sais même pas ce que c'est. Tu m'as dit, c'est un truc qui s'appelle Game Face.
Vas-y. Ah oui, Game Face. Alors, ça fait partie du marathon comédie. Et comme c'est à Ronnie, je ne vais pas y aller. Donc voilà, il fallait bien que je rattrape.
Mais c'est ça, j'ai bien compris. Le marathon comédie, il n'est que à Ronnie.
Oui, il est que à Ronnie.
Non, il n'est pas que à Ronnie. Il est à Ronnie le samedi et le dimanche après, de 13h à 17h, voire
ouais,
plus.
Ouais, bon, voilà. Bon, en fait, j'avais que le samedi de libre,
et
j'ai pas pu aller à Ronnie.
Donc voilà. Non, il n'est pas que
donc j'ai rattrapé ça un petit peu de quelques séries, dont Game Face, qui est. Alors, il
sur
le.
Trans...
C'est britannique, c'est. J'ai oublié le nom de l'actrice, mais bon, enfin, bon, bref, c'est pas grave. Ils le vendent comme l'auteur-réalisatrice-actrice, ils la vendent un peu comme une Phoebe Waller-Bridge.
D'accord.
Donc voilà, donc je me suis laissé tenter parce que, comme j'adore Fleabag, je me suis dit, allez, pourquoi pas. La comparaison va être dure à tenir, mais bon, on sait jamais.
Et elle est dure à tenir.
C'est très différent, donc c'est assez segmenté, c'est des mini sketchs et tout.
C'est ça, non mais c'est, je pense que chaque fois qu'il y a un auteur femme, on pense que c'est du coup comparable à un autre auteur femme,
voilà,
parce que
c'est
tellement hallucinant qu'une femme soit un auteur que du coup tu as un seul modèle, quoi.
Non mais alors ça n'avait strictement donc aucun rapport avec Fleabag. Bon, certes c'est une héroïne qui est un peu paumée dans sa vie, etc., mais bon voilà, mais c'est assez segmenté, c'est des mini sketchs et tout qui s'enchaînent plutôt bien, et j'ai trouvé ça très drôle. J'ai beaucoup ri, mais d'ailleurs à un moment donné, comme j'étais en salle des collections, je me suis dit, faut peut-être que j'essaie de me calmer. Je vais peut-être déranger les gens autour de moi, mais non, j'ai beaucoup ri, c'était plutôt pas mal fait. Ouais. J'ai essayé de guetter
la
diffusion britannique. Ouais.
Bon, bah ok, tu m'as donné envie, fondu, Game Face fondu. Toi, t'as vu les mêmes trucs que moi, donc on va en parler. Je parle à Capucine. Du coup, on va parler d'un truc qu'on a vu toutes les deux. Je sais pas si tu l'as vu, Team Chocolate.
Non, et par contre, j'en entends que du bien, il va falloir que je m'y mette.
On va en parler sans le spoiler. Donc, on a vu Team Chocolate hier. Alors, c'est une série belge-flamande. Le truc de base, c'est que les deux créateurs ont travaillé, l'un depuis 30 ans, l'autre depuis 10 ans, avec un théâtre, une troupe de théâtre de gens avec des déficiences mentales. Et depuis 2006, ils essayent de créer créer des trucs autour, de créer de la fiction avec eux, parce que ben, y a tout un potentiel et tout un tas de choses qui ne sont jamais explorées dans la fiction. Et du coup, ils ont, donc en fait, ils ont fait beaucoup de shorts, de petits tests narratifs, comme un peu un laboratoire, ou avec cette troupe, et jusqu'à ce qu'ils créent cette série. Donc apparemment, il y a une première version de la série qui a été proposée aux chaînes, et ils ont dit c'est trop dur. Puis ils les ont rappelés finalement, en disant on veut que finalement vous fassiez votre série, mais plus familiale. Ils ont dit le mot familial 8 fois dans la présentation. Je veux dire, je pense qu'ils essaient de justifier certains aspects du coup de la série au niveau de son exécution et de sa direction artistique, pour dire c'est pas notre faute, c'était la chaîne. Ça, c'est ma théorie personnelle. Mais donc, en gros, c'est une fiction. Donc, il y a effectivement la plus grande partie des acteurs sont des gens avec une déficience mentale. Donc, il y a des trisomiques et il y a d'autres types de déficiences physiques et mentales. Et par contre, c'est pas une troupe, c'est pas l'histoire d'une troupe de théâtre. C'est l'histoire d'une fabrique de chocolat dans laquelle une partie du service d'emballage est entièrement staffée par des gens avec ces difficultés-là. Et donc, et ça parle de tout un tas de choses au sein de ces personnages. Ouais. Donc, ça, c'est à peu près le pitch, voilà. Sachant que du coup le créateur a dit on aimait le chocolat, le fait que ce soit une fabrique de chocolat, donc ils font des truffes. Il dit parce que il y avait quelque chose dans l'idée du doux amer que le chocolat peut représenter. Et au moment où il a dit ça, j'ai dit bah voilà, ça c'est tous les créateurs des pilotes de la Fémis, ils ont jamais posé cette question-là.
Non mais ils en prennent pour leur grade.
Non mais en fait ce que je veux dire c'est ça, c'est-à-dire que tu sens qu'ils ont pensé à plein de choses en faisant leur truc, mais que ce genre de réflexion, de conceptuel, de fond, de thématique, ça ils se sont pas posé la question parce qu'on leur a pas dit. Enfin c'est la faute des enseignants, hein, c'est pas leur faute. Donc voilà, désolée.
Ils ont pensé à trop de choses aussi parce que la série est globalement bien, mais je trouvais qu'elle nous perdait au passage parce qu'ils ont voulu parler de plein de thématiques différentes, mais que toutes ces thématiques ne s'imbriquent pas forcément les unes avec les autres. Oui. Par exemple, il y a le côté social où c'est ce directeur qui veut employer des gens avec des, comme tu disais,
déficience mentale. Apparemment, c'est le terme politiquement correct. Ils l'ont répété 12 fois hier aussi.
Mais il y a cet aspect-là, il y a cet aspect aussi où c'est la petite entreprise qui se bat contre la grosse entreprise qui veut la racheter et tout délocaliser et virer tout le monde. Et il y a l'aspect aussi immigration, sans trop spoiler. Où
j'ai entendu qu'il y avait des Kosovars quelque part.
Oui, absolument, il y a des Kosovars.
Voilà, et il y a des histoires de sans-papiers et de tout le monde se bat pour les sauver, tout ça. Et il y a surtout une histoire de voix-off. Qui, moi,
qui est
personnellement,
vraiment le truc le plus problématique de la...
C'est ça. Et tous ces aspects-là, moi, m'a un petit peu dérangée et m'a pas fait complètement adhérer à toute cette bonne volonté de faire des jolies choses, une série plus ou moins feel-good, mais qui n'est pas complètement feel-good. Et c'est en ça que moi, je suis... C'était bien, mais je suis un peu restée en retrait.
Alors, tendance à devenir politique ou pas du tout?
Alors, en fait, le truc, c'est ça. C'est que tu as une espèce de packaging familial. Donc, série familiale, dans le sens, la musique est problématique, effectivement, pas super. La voix off, donc, est une super bonne idée parce que c'est... Je vais pas te le dire pour que tu le saches pas, mais c'est un personnage inattendu qui fait la voix off. Et du coup, ça rapporte quelque chose, sauf qu'elle est dans l'exécution, dans le montage, dans le mixage, c'est très mal amené, ce qui fait que c'est assez dérangeant. Ils ont dit quelque chose par contre de très intéressant dans le... Je sais pas si t'étais à la rencontre avec l'équipe. Non. Parce que l'équipe a expliqué qu'en gros, depuis le départ, dans tous les tests qu'ils avaient faits, ils avaient tendance à utiliser... Ils ont appris à utiliser une voix off pour, en fait, tous les moments où les comédiens, pour une raison ou une autre, n'arrivent pas à aboutir dans une scène.
Ah oui.
Et que puisse y avoir un espèce de filet de sécurité narratif qui leur permet de retrouver leur petit, si jamais, pour qu'ils puissent utiliser le travail qu'ils font avec les comédiens, même s'il n'y a pas la bonne phrase, le bon moment et tout. Et du coup, ça, j'avoue que c'est super intéressant de penser qu'ils ont vraiment exploré jusqu'au bout dans le travail collaboratif avec ces comédiens-là. Donc, notamment, ils ont dit que le personnage principal, c'était un acteur qui transmettait énormément d'émotions, mais qui avait beaucoup de problèmes avec le texte. Et donc du coup ça les poussait à avoir peu de texte, peu de dialogue dans ces scènes-là. Donc c'est vraiment intéressant. Et alors l'autre truc qu'il faut savoir, c'est que je sais plus combien d'épisodes, mais il y a peut-être 8. En tout cas, c'est un road movie en fait. Donc en fait les deux épisodes qu'on a vus, en fait c'est l'introduction.
Ouais, d'accord.
Et à partir de l'épisode suivant, c'est une bande, ils sont 5 mecs qui partent pour essayer d'aller jusqu'au Kosovo. Donc c'est complètement autre chose la proposition.
Ah oui,
donc, en fait tout ce que tu as vu c'est l'exposition. Et du coup, tous les défauts que j'ai ressentis aussi dans ces problèmes-là, je pense qu'en réalité ils disparaissent que ces deux épisodes sont probablement nécessaires, notamment pour tout un public, pour familiariser les gens avec ces personnages différents, à comprendre comment ils fonctionnent, justement, parce que du coup, en fait, ça désamorce énormément de préjugés et énormément d'attentes que tu as vis-à-vis de quelqu'un de trisomique ou tu sais pas, voilà. Et tout un tas de trucs, notamment le fait qu'ils ont des vies romantiques assez complexes, voilà, ils ont des attachements, enfin tout un tas de choses, les parents, comment eux les parents vivent le fait de les laisser avoir une autonomie, enfin il y a tout un tas de trucs qui sont clairement désamorcés. Et ensuite, je pense que l'histoire commence vraiment. Et du coup, c'est dommage parce qu'on n'a pas vu la suite.
C'est ça. Mais oui, il y a plein de sujets qui sont...
Effrôlés.
Qui sont... Ouais, non, et puis même...
Effrôlés n'est pas un mot, oui.
Non, mais qui sont un peu dits sans tabou. Par exemple, la vie sexuelle de déficient mental, pas mal de sujets de ce genre-là. Et à ce niveau-là, la série est très bien faite parce que justement, elle nous met en plein dedans.
Alors, j'ai accompagné quelqu'un pour l'interview du de la série et du producteur, et il disait que pour certains personnages, ils se sont inspirés carrément de leur vie privée pour les aider à intégrer leur vie, leurs sentiments et certaines choses, parce que comme ce sont pas des acteurs professionnels, c'était plus simple pour eux d'intégrer carrément de leur vie dans la série. Donc
mais
pour le coup, je trouve ça très bien.
En réalité, je pense que tous les grands personnages de série, j'ai cette théorie que tous les grands personnages de série, c'est
beaucoup de toi.
C'est une projection de l'auteur qui rencontre une projection du truc de l'acteur et ça devient le personnage. Et en fait, rigolo, c'est Hervé Admar qui a dit une fois dans un truc, justement une formation que je faisais à l'époque, que je menais, je faisais la formation, était venu parler à mes stagiaires et il avait dit à un moment que une série c'était des névroses et donc en gros un projet c'était la rencontre des névroses de l'auteur avec les névroses du producteur. Et du coup je pense qu'il y a quelque chose d'assez similaire avec les acteurs, donc en fait techniquement c'est une façon juste beaucoup plus directe de faire quelque chose qui en fait cette alchimie se fait quand il y a un truc, enfin bon, moi l'exemple bien sûr numéro un c'est Spike dans Buffy, mais Spike dans Buffy c'est classiquement ça, c'est à dire qu'au début il était quelque chose, mais en fait Buffy aussi d'ailleurs, Buffy c'est les désirs d'un fils de Joss Whedon et sa façon d'idéaliser sa personnification de lui-même à travers un personnage féminin et elle en fait sa personnalité à elle qui ont fait le personnage. Donc finalement ce qui fait ça dans Team Chocolate c'est génial parce que c'est exactement ce qui se passe généralement. Je pense que c'est un peu Stanislavski aussi, enfin tu vois, une forme de jeu d'acteur naturaliste où tu prends tes propres émotions pour nourrir l'émotion. Donc moi j'aimerais bien voir la suite du coup de Team Chocolate parce que j'avoue qu'au niveau j'ai beaucoup aimé parce que je suis contente de la proposition, je suis contente que ça existe, mais en tant que divertissement série j'ai beaucoup décroché.
Voilà.
J'étais beaucoup ok. C'est simple, j'ai commencé à compter mes mailles pour mon tricot sur un petit cahier pendant ce temps-là. Mais après, je trouve ça. Après, moi, en plus, surtout, j'ai jamais vu de personnes. Enfin, j'ai de personnes trisomiques, plus d'un seul personnage trisomique. Il y en a peu et plus d'un. En fait, le seul endroit où j'en ai vu, c'est il y avait pareil un centre avec une troupe de théâtre. C'est dans No Offense.
Oui, c'est dans la saison 2.
La première saison, parce que le serial killer tue
des personnes trisomiques.
Tue des jeunes femmes qui souffrent du syndrome de Down. Alors, par contre, il y a eu encore un problème de traduction où la traductrice qui était nettement moins pire que l'autre traductrice, mais quand même a dit oui, des gens trisomiques ou des gens souffrant du syndrome de Down. On était là.
C'est pas pareil.
On fait tes doigts. Bon, passons. Du coup, j'ai dit que j'arrêtais de dire du mal des trucs. Donc, ça, c'était Team Chocolate. Toi, t'as vu Transfert ?
J'ai vu Transfert, la série française d'Arte d'anticipation, et c'était vraiment sympa. J'ai été plutôt happé par l'univers.
C'est drôle ? Quand tu dis c'est sympa, c'est drôle ou...
Ah non, c'est intéressant et non, pas drôle du tout. Enfin, c'était pas... En tout cas, ça l'était pas volontairement, mais j'ai pas ri. Donc... mais voilà. Non, c'est une série d'anticipation où c'est qu'on peut intégrer l'esprit et l'âme d'une personne dans un autre corps. Voilà. Et donc, il y a des transferts illégaux, il y a une police qui essaye de contrôler tout ça. Il y a un débat de religion versus la science.
Ok, tu m'as vendu, je veux pas que tu me spoiles. Maintenant, parle du fond, décris plus ce qu'il y a à l'intérieur.
Non, mais c'est très intéressant. C'était plutôt bien fichu. Ça monte crescendo sur les deux épisodes. Alors, il y a un gros travail d'exposition qui est.
C'est des 52 minutes ?
C'est du 52 minutes, c'est un 6 x 52. Les auteurs étaient à l'étroit dans du 3 x 52, comme le fait habituellement Arte. Ils ont demandé du RAB. Arte a été très généreux de leur donner. Ils ont bien fait parce que ça méritait largement plus. Alors, il y a des défauts, hein, on va pas se mentir. L'introduction du monde, de l'univers d'anticipation, c'est trop appuyé. Il y a certaines dialogues qui ne passent pas, mais bon, voilà, on va les pardonner. Et sur le reste, c'est vraiment bien fichu, c'est vraiment prenant. Quoi.
Ok,
les acteurs aussi sont plutôt intéressants aussi. Voilà. Okay. Ce qui n'est pas c'est à noter quoi. Trépalium est passé par là et nous avait largement refroidi au niveau anticipation à la française.
Bah, moi en fait c'est rigolo, je pense que c'est rigolo que les conversations tournent toujours autour du sujet ou du genre. Tu vois, enfin on reproche à un sujet, à un genre ou à une décision. De... Et en fait c'est rigolo parce qu'on en parlait dans un podcast avec Dom l'autre jour, celui du premier jour de Cinémania où on parlait. Où je disais, moi je suis jamais partisane de dire ah c'est nul parce qu'ils auraient pas dû les mettre ensemble ou c'est nul parce que le mystère était. Pour moi c'est toujours une question d'exécution en fait. Ouais. Et que du coup c'est rigolo qu'on, alors, qu'on revient tout le temps au fait c'est un genre, c'est que ça nous a refroidi et tout. Alors qu'en fait je trouve que c'est juste, il y a des fois c'est mal fait.
Ah non, mais c'était clairement mal fait, Trépalium, on va pas se mentir.
Mais Trépalium, mais... c'est le concept est top. Enfin, le
bah, concept de Trépalium, c'était bien. Mais attends, les créateurs de Trépalium, quand tu leur poses des questions, ils tombent en sanglots tellement ils sont malheureux de ce qu'on a fait de leur série. Donc tu dis qu'il y a eu un petit souci quelque part.
Mais en fait, le problème.
C'est la prod, non, c'est la prod que ça a merdé.
Tout
Paris le sait.
Non, mais clairement. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à. Dès que tu vois une série de gens, si elle est mauvaise, même si c'est la première, on va lui tomber dessus et ça va dégommer pour les autres qui veulent faire après par derrière. Donc voilà. Donc si oui, vous n'avez pas aimé Trépalium, n'ayez pas peur, transfert, c'est très bien.
C'est l'erreur générale de l'industrie de penser que c'est lié aux gens. C'est d'une naïveté absolue. Bon, passons.
Je suis naïve donc.
Non, pas toi. Non, je parle. Voilà. Mais je comprends que tu dis ça. Parce qu'effectivement, c'est ce que les gens disent. C'est juste que moi, je dis qu'il faut lutter contre.
Oui, clairement. Oui.
Bon, alors, du coup, après, donc, c'est à nouveau à toi de parler parce que je veux qu'ensuite, on vire vers un truc qu'on a vu tous les trois. Donc,
ah oui.
T'as vu Four Blocks hier.
J'ai vu Four Blocks.
Ne me spoil pas.
Bon, ça va être compliqué. Donc,
c'est
une série allemande.
C'est à combien de minutes, tu sais?
C'est un 50, 60, c'est quasiment 60, ouais, une heure.
C'est une heure.
T'as
vu combien d'épisodes?
J'ai vu les deux premiers épisodes. Et en plus, c'est une compétition officielle en plus. C'est Damon. Damon, il a dû le voir aussi. Et
T'as des moments comme ça où t'as des moments de compétition, genre, oh, pauvre Damon.
Oh oui, le pauvre Damon. Donc voilà, c'est une série qui parle un peu de famille mafieuse turque en Allemagne, à Berlin.
Et oui, apparemment, vous êtes chez moi.
Voilà, donc.
Selon Léa, qui, vous ne le savez pas, mais est la personne qui a trouvé l'appartement avec ma meilleure amie il y a 12 ans. Donc du coup, elle a très bien reconnu le quartier.
Dans le nom d'une ville, enfin d'un quartier imprononçable pour moi, mais bon.
Neukölln.
Voilà, Neukölln, bah bon, voilà.
Qui veut dire Nouveau-Cologne, hein, tout simplement.
D'accord. Bon,
et voilà, c'était immortalisé par David Bowie sur, il me semble que c'est sur l'album Heroes, il y a une chanson qui s'appelle, enfin qui est un morceau instrumental, qui s'appelle Neukölln, mal orthographié d'ailleurs, avec une forte orthographe, parce qu'il met un seul L alors que. Dans la ville de Köln, il y en a un, mais dans la ville, dans le Neukölln quartier, il y en a deux, et qui est le quartier traditionnellement turc, qui est juste à côté de Kreuzberg. Donc on est dans l'ouest de, enfin on a parti Berlin-Ouest, mais c'est à l'est de la ville. Parce que le sud était tout l'ouest en fait.
D'accord, ok.
Et du coup, Four Blocks raconte l'histoire
d'une famille turque mafieuse, voilà.
Dans le quartier turc.
Dans le quartier turc.
Et c'est
pas terrible. C'était ça la question.
Quelqu'un m'a dit que c'était dangereux.
Dangereux quoi?
Genre irresponsable à notre époque de faire un truc pareil.
Dans quel sens?
Bah, je suppose que ça dépeint un portrait très négatif des étrangers. Alors, je pense que c'est ça, peut-être.
Un petit peu beaucoup, mais après, il y a aussi un côté de ce sociétal que je ne connais pas de l'Allemagne et de
Les gens, c'est tous des malfrats?
Alors,
les Turcs?
Non, il y en a quand même un qui a essayé de sauver les meubles.
Lequel? Parce que.
Tony?
Oui, mais enfin, c'est quand même le chef de la famille, donc c'est lui quand même qui est à l'origine de tout.
Oui, mais c'est le moins méchant, en quelque sorte.
Oui.
Dans le sens où il essaie de se comporter en bon père de famille, il voudrait se ranger, mais il y a son frère qui s'est fait arrêter, du coup, il est obligé de reprendre les affaires de famille, et du coup, il est obligé de faire le bad
guy. Soprano,
mais alors voilà, c'est une ressuscité des Sopranos. Il y a des personnages, il y a une belle-sœur qui me fait penser exactement à Adriana et son mari à Christopher. Il y a des scènes et des
qui m'ont fait. C'est quelqu'un qui a trop regardé Les Sopranos et qui a essayé de faire une version.
Et c'est fait par un réalisateur de cinéma qui.
C'est un peu misogyne aussi.
Ça donne l'impression. Super. Oui, ça donne l'impression que c'est que tous les Turcs du quartier sont mafieux ou pas? Ça, c'est la question. Non, parce que moi, dans la moitié de mon immeuble, il y a des Turcs. Tous les magasins sont des Turcs.
Moi, personnellement.
Et je ne ressens pas du tout la criminalité.
Moi, personnellement, ça me donne pas envie d'aller dans le quartier. Voilà, c'est exactement ça.
Alors que si tu passes à Berlin, je t'inviterai à bruncher à la maison. Tu vas voir, c'est trop bon, quoi. On a de la place.
Alors
on est heureux, nos voisins sont adorables.
L'autre côté, l'autre série allemande qu'on a vu, Tempel,
voilà, c'est ça.
Qui est dans le même quartier, dépeint quelque chose de complètement différent.
Ça t'a plu du coup,
Four Blocks? Disons que j'ai pas complètement détesté. On va dire ça comme ça.
D'accord. On va écrire ça sur les DVD. Moi j'ai un grand truc, mais justement ça n'a pas l'air de s'appliquer. Mais une de mes grandes critiques comme ça dans des trucs un peu mitigés, c'est de dire c'était pas insultant. C'est-à-dire donc c'était pas raciste, c'était pas misogyne. Mais là parce que vous me dites
non,
apparemment.
Pas.
Disons que c'est clairement misogyne. Après j'ai trouvé que voilà, c'était pour moi, c'était pas raciste, mais ça manque un petit peu de nuance. Okay. Ils auraient pu faire plus nuancé, mais tout n'est pas acheté.
D'accord. Voilà. Et donc, par rapport à Temple, donc moi j'ai vu Temple après, donc ça c'est 6 fois 30 minutes, ouais. Ce qui est un format hyper intéressant, c'est fait par la ZDF, qui est quand même une des chaînes nationales du pays. Moi j'ai adoré parce qu'en fait j'ai bien aimé au début, et il y a quelques trucs qui m'ont inquiété, et en fait ça m'a agréablement surprise.
Tu parles du twist de l'épisode 3.
Non,
je me suis toujours pas remis, mais bon.
Moi aussi, celui-là il m'a pris. Non, c'est au début, je me dis, la dégringolade est un peu rapide. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui a un passé criminel de boxeur et compagnie un peu bizarre, mais qui est rangé depuis très 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 longtemps et qui est.
16 ans.
Altpfleger, comment on dit Altpfleger.
Je sais pas si c'est allemand, je peux pas te dire.
C'est quoi son métier en français? Comment t'appelles ça?
Boxeur et infirmier.
Ah non,
aide-soignant. C'est Pfleger, c'est quelqu'un qui s'occupe des soins. Les soins à domicile.
Pour
et
les
donc du coup, notamment invalide, âgé, voilà. Et donc il fait des soins à domicile et il se retrouve suite à tout un tas de trucs
à aller
taper à la porte de ses anciens camarades. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé que dans le premier épisode, t'avais l'impression qu'il y avait qu'il retombait complètement dans le truc très 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 rapidement. Même si ça me semblait bien géré émotionnellement à l'image, je me suis dit au niveau de la narration, je trouve ça un peu rapide. Ça fait 16 ans quand même, il a monté une vie pendant 16 ans. Tout ce qui se dégage après l'épisode 2 et 3, je trouve, donne beaucoup plus d'éclairage psychologique sur pourquoi ça fonctionne comme ça et ce qui fonctionne et ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper riche au niveau dans le sens positif, au niveau émotion, au niveau idée, au niveau.
J'étais surpris.
Au niveau moment aussi, il y a des moments.
Au niveau poésie, surtout, il y a beaucoup de poésie et la musique aide beaucoup en ça.
Le score, parce qu'il y a aussi la musique, le soundtrack, les chansons, mais le score notamment, le score est assez incroyable. Il y a deux, trois scènes comme ça, hyper poignantes.
Hyper fortes.
Moi j'ai été clairement surpris, vu le pitch, je ne m'attendais pas à ressentir autant d'émotions avec la série. Et c'est, d'ailleurs, j'ai été agréablement surpris. Et c'est un mini coup de cœur de la sélection jusqu'à présent. Enfin, Marc Temple. Moi, il m'a fait vibrer quoi. Enfin, toute sa famille, même sa fille, au final, je peux comprendre pourquoi elle avait peur de parler à ses parents.
Ouais.
Enfin, non, mais
moi, elle se doute pas. Spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, elle se doute pas de pourquoi c'est problématique.
Mais c'est plutôt.
Il est
plutôt...
très très beau.
Bon, ça.
Il est très 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 beau. Et j'étais là. Il habite Berlin. Je peux le trouver.
Je ne comprends pas. Je ne l'ai pas vu tourner. Si ça s'est passé chez toi.
Non, mais oui, c'est ça. En plus, parce que pour le coup, l'autre, il paraît que ça se passe à côté de moi. Là, il y a le magasin au coin de ma rue qui est tout le temps dans l'image, quoi. C'est complètement hallucinant. Et donc, du coup, je suis désolée, je m'excuse, Stéphane, qui a eu le malheur d'être assis à côté de moi. Et toutes les 5 minutes, il tapait un coup de coude et je disais, alors là, j'habite l'église là, l'église rouge.
Je suis en face.
Mais j'ai des photos de cette église dans mon téléphone, quoi. C'est complètement ouf. Ils sont vraiment dans ma rue. Et du coup, d'ailleurs, par contre, ils ont un gros problème de logement et d'habitation et tout. Et là, je suis là.
On est à Berlin.
Oui, enfin, en même temps. En même temps, on se pose des questions beaucoup sur chaque fois que qu'on change de propriétaire. Justement, c'est un truc, c'est la Hausverwaltung, donc c'est des agences de notre immeuble. On a toujours peur qu'ils essayent de tout rénover et tout, parce qu'effectivement, les prix dans mon quartier ont explosé en l'espace de quelques années.
Et on comprend dans Forblog que c'est la faute des hipsters.
Mais oui, non, mais absolument, parce que avant, pour aller boire dans un bar cool, t'allais à Kreuzberg, qui est le quartier d'à côté. Par contre, le côté du quartier, ça, c'est un truc hyper berlinois, quoi. C'est-à-dire que moi, la plupart des trucs que je fais, c'est à Neukölln. Je vais un peu à Kreuzberg, de temps en temps je vais à Mitte parce que c'est là que bosse ma meilleure amie, mais sinon moi je suis à Neukölln, j'ai mon magasin d'âme préféré à Neukölln, j'ai mon café préféré à Neukölln, et en fait par exemple mon bar préféré à Neukölln qui a un bar sur un toit, c'est un bar hyper populaire dans Berlin en général, enfin presque c'est un bar, c'est sur un parking en fait, sur une aire de parking, ils ont fait monter un truc et en fait c'est un bar, t'as les familles. Parce que c'est des familles punk, limite hipster. Donc, en plus, c'est pas vraiment des hipsters, les Berlinois. Ils étaient déjà comme ça il y a 20 ans. Et ils ont moins d'argent, c'est plus des artistes. Donc, c'est pas exactement pareil. Les vrais hipsters, pas les hipsters, mais les vrais, les bobos de Berlin, ils sont pas du tout à Neukölln. Mais par contre, il y a de plus en plus de bars cool qui s'ouvrent. En fait, on va de moins en moins loin pour sortir. Et c'est là que tu sais que ton quartier est en train de changer. Il y a de plus en plus de petits cafés. Il y a un truc à côté de chez moi qui s'appelle Karl Sachs Relax, donc qui veut dire Karl Sachs Relax en anglais. Et Karl, c'est Karl Marx, c'est les bâches de Karl Marx. Parce que c'est la Karl Marx Strasse en plus. Hautement symbolique. Et non, mais moi, en fait, c'est ça, j'habite entre le métro Karl Marx Strasse et la station Neukölln. Donc c'est vraiment le cœur de la. Donc c'est rigolo qu'il dise ça parce que c'est vrai. Et en même temps, il n'y a pas du tout ce côté criminalité, peur et tout ça.
Je t'invite vraiment à regarder Fort Blocks.
Et hein, du coup, ce qui m'intéresse, c'est que dans Fort Blocks, t'as l'impression que c'est maltraité, alors que dans Temple, tout en sachant ça, j'ai eu aucun souci avec le fait qu'ils exagèrent le truc, parce que tu t'en fous. Si t'as des personnages et t'as une histoire humaine,
voilà.
Tu t'en fous.
C'est très humaniste, hein, quand même. On va pas se...
Et moi, tu vois, pour revenir au pilote de la Fémis, ils m'ont dérangé parce que je les trouvais pas réalistes, mais en fait, je les trouvais pas émotionnellement réalistes. Et du coup, j'avais le côté, putain, ils auraient pu parler à des gens qui font ça et tout, mais dans le sens, c'était pas de rendre réaliste tu vois, l'univers, que c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est juste que quand on allait parler à des gens dont c'est la vie, et ben du coup, tu comprends c'est quoi la réalité émotionnelle d'une situation. Et après, on s'en fout si les détails sont faux. C'est pour ça que la science-fiction, ça marche, tu vois. Mais ouais, moi, j'ai trouvé Temple, ça m'a complètement... J'ai dit, je m'en fous que ça me paraît pas du tout crédible, leur histoire mafieuse. Et en fait, c'est pas... Enfin,
c'est l'émotion qui prime, quoi.
C'est ça. Moi, je vois une vraie tragédie, je vois un vrai truc humain. Enfin, tragédie et comique aussi. Parce que
c'est quand même très drôle.
Il y a des moments très drôles, il y a des moments très beaux. Enfin, le côté de la phrase, pour ceux qui l'ont vu, la phrase « Putain, t'es vraiment une mauvaise infirmière !» C'est quand même un grand moment. Et aussi, mais il y connaît quoi? Il y connaît quoi, Darwin, au trafic de drogue?
Oui, c'était très drôle. Non, mais c'était bien.
Tu connais Darwin, c'est celui qui s'adapte le plus, c'est celui qui survit, mais qu'est-ce qu'il y connaît? Darwin, il y connaît quoi, votre ville de drogue? Trop bon que chef. Ah bon. Donc moi c'était coup de cœur, grave.
Ouais, ouais.
Coup de cœur du jour.
Ouais. Bah moi j'ai vu un autre truc que j'ai adoré ce matin, mais dont je parlerai après. Et ensuite on a vu le spectacle de Benoît Lagagne.
Ouais.
Je vois pas comment.
La gagne ou la gagne.
On est en train d'enregistrer un podcast, tu as le droit de parler, Guillaume Nicolas, mais par contre, j'étais complètement. Ça, on parle de Benoît. On vient d'entamer Benoît Lagagne.
On peut commencer par le troll.
Non, je suis pas.
Ah, t'es négatif, toi?
Non, je suis pas négatif, mais ça m'a laissé.
Tu craches sur le travail des gens.
Non, mais je dois avouer que certaines références séries sont déjà beaucoup plus. Sont trop datées pour moi. Après. Voilà.
Ah, donc en fait, t'es un petit jeune, donc tu t'as rien capté.
Non, mais pas, y a, bah, ça parle de la petite maison de la prairie, si, mais après, il y a certaines références où je suis passé complètement à côté. Quoi.
Donc c'est un spectacle, c'est un one-man show sur l'amour des séries, c'est très bien fait.
Après, je me suis
bien joué, très bien écrit, très, très touchant, très beau,
très personnel.
Très personnel, c'est ça.
Et du coup, ça nous parle de nous parce qu'il parle de lui, ouais. c'est la théorie. Ça a fait pleurer les gens à la fin, en grande partie. Enfin, moi, j'étais à deux doigts de pleurer. Et par contre, c'est rigolo parce que moi, les deux références séries qui m'ont vraiment dérangée, où j'étais vraiment pas d'accord, c'était bien sûr les références 2016. Parce que moi, j'étais là, mais pas du tout. C'était This Is Us, que je n'aime pas du tout.
Oh,
que je trouve ultra, ultra creuse. Et
Westworld.
Oh, c'est pas vrai. Où j'étais là. That horrible show! Comment peux-tu oser utiliser la musique de Buffy au début et parler de Westworld, quoi? Quelle honte! Donc voilà, ça c'était. Mais sinon, Benoît est génial et je conseille à tous ceux qui ont l'occasion, parce qu'on a vu.
Il dégage une sacrée énergie sur scène.
Voilà. Hein, c'est vas-y, Capucine.
Ouais, moi j'ai trouvé très touchant et même si, comme.
Stéphane. C'est moi, Stéphane.
Ah bon, bonjour. non, voilà, moi j'avais pas forcément toutes les références séries, mais j'ai quand même été très touchée par ce qu'il racontait. Et c'est vrai qu'en parlant de lui, il nous parlait de nous et il a passé une heure à nous parler de nous. Et voilà, et c'était très beau, très touchant. Et je recommande chaudement.
Guillaume Nicolas, vas-y, toi, Benoît Lagagne.
Non, j'étais pas là normalement. C'était très bien, je vais pas trop développer parce que du coup j'ai un article à écrire derrière. Donc je vais pas spoiler. Non, c'était très bien, il avait une façon. Effectivement, d'incarner son histoire, qui raconte un peu l'histoire de la télévision à travers son histoire à lui. C'est très intelligemment fait, il joue beaucoup.
Il faut lire l'article pour savoir.
Et voilà, il faudra lire l'article pour avoir les choses en détail. Il faudra que je remette les choses à place. Non, j'ai pas pleuré, mais je suis un grand sensible. C'était très émouvant.
Voilà, moi je suis hyper contente parce que moi il a invité les gens à participer des fois et à dire des trucs, et je l'ai fait à un moment. J'ai parlé du fait que quand j'étais petite je jouais à Wonder Woman et je l'ai vu sourire, je me suis dit tiens, ça fait vraiment beaucoup sourire. Et après, quand il a passé le générique de Wonder Woman, j'ai compris pourquoi il avait souri. Et puis il a commencé avec la musique de Buffy. Et on a Dom qui revient là, par là, tu crois qu'on va pouvoir lui faire parler de Benoît Lagagne. Moi je sais pas si je suis beaucoup plus vieille que vous, mais par contre toutes les références je les avais, du coup ça me fait très très peur, y compris d'Actari. On est juste en train de parler de Benoît Lagagne. Dom, tu veux pas nous dire comment t'as vécu le spectacle?
Je l'ai vécu assis.
Oh oui. On était plus que 6.
On était plus que 6. Oh, Guillaume Nicolas vient de faire de l'humour.
Oui, c'est vrai. Et il m'a pas remplacé pour rien.
Il y a Arnaud qui arrive, on est en train d'enregistrer le podcast, ça n'étonne pas. Juste, Stéphane, avant que tu t'enfuis, une pensée.
Oui, il faut que j'aille voir Salam Moscou.
Des derniers jours, un truc particulier, que tendance, truc que tu as à dire sur Cérémania cette année?
Non, parce qu'après, Capucine va me dire que je suis un troll.
Mais un troll.
Mais pour l'instant, la sélection ne m'a pas transcendé. Voilà, donc... Mais j'espère être surprise sur les 5 ou 6 derniers jours qui nous restent.
J'espère que tu vas aimer Salam Moscou. On verra.
Je te dirai ça dès demain.
Mais demain, je vais demander à tout le monde si vous pensez Salam Moscou. Non, c'est bien. Vous voyez l'effet ? Cérémania, c'est une grande colline de vacances. Vous voyez, il y a 50 personnes qui sont en train de se dire bonjour. Salut, tout le monde dit bonjour.
Ça va ?
Ah, et je vous préviens, je les montre pas cela parce que je n'ai pas le temps. Donc tout va être dans le podcast. Vous serez dans le podcast.
C'est officiellement le podcast où j'ai le plus souvent dit bonjour. Bonjour.
Vas-y, Benoît.
Alors Benoît, comme je le dis depuis que j'en suis sorti, c'est très émouvant. C'est souvent drôle. C'est très décousu, mais pas forcément toujours dans le mauvais sens du terme.
Oui, c'est ça. Ça rend le truc personnel.
Il y a un fil conducteur qui est très flottant. En fait, c'est une suite d'apartés. C'est-à-dire, il commence un sujet, puis il part sur autre chose. Ça revient toujours sur du personnel. C'est pas un spectacle où on en apprend sur la télévision, mais on en apprend beaucoup sur Benoît Lagame et son rapport à la télévision.
Et du coup, on en apprend sur notre rapport à la télévision.
C'est exactement ça. Ça donne un aspect très humain à l'acte de regarder la télévision. Et dans un lieu comme ici, où à une époque, on se disait que c'était un festival très pointu, un peu limite, un peu snob, ça a changé, c'est devenu beaucoup plus populaire. Le fait d'entendre Benoît en parler comme d'un acte quelque part humain et proche.
Politique. Un acte politique. Ouais. J'assume l'homme qui tombe à pic, je vais chanter le générique 8 fois et je m'en fous. Et à un moment, je veux dire que Mad Men, ça m'endort. Sans vouloir spoiler le spectacle.
Et non, du coup, c'est un joli spectacle, je trouve. C'est un joli spectacle. Je disais en rigolant que c'était le Michel Bougenat de la critique série. En voyant le spectacle, il y avait de ça. Avec ce qu'il y a d'un peu moins bien et de vraiment très très bien chez Michel Bougenat. C'est que c'est très touchant, c'est très doux, c'est très à l'image de Benoît, en fait. Donc moi, j'ai beaucoup aimé.
Du coup, Capucine, maintenant que Stéphane nous a abandonné, toi, je voulais te demander, on est quatrième jour de festival, hein, une tendance, une réflexion, une pensée, un truc... non, mais juste le truc, tu vois, ce soir, quand ta famille te dira « Alors, le festival, ça se passe bien ?» ou tu vois, juste un truc qui te revient tout le temps. Tu vois, par exemple, moi, un des trucs qui me revient tout le temps, c'est « Apparemment, personne n'est d'accord sur la définition de science-fiction dans ce festival. Enfin, » tu vois, ce genre de pensée...
Moi, par rapport à l'année dernière, en fait, je trouve que la sélection de cette année est beaucoup plus éclectique, parce que j'avais trouvé que l'année dernière, c'était une sélection principalement sur des dérivés de Broadchurch.
On est toujours en train d'enregistrer.
Et que...
c'était Guillaume Nicolas qui faisait du bruit pendant qu'Apucine parlait. D'ailleurs, j'appelle mon chéri. Oui, j'appelle mon chéri. Vas-y, ma chérie.
Ok, ça marche. Let's
j'appelle go. Vraiment tout le monde, c'est pas grave. Faut pas s'emballer. Donc, la sélection est beaucoup plus éclectique. Ouais.
Oui, que j'ai trouvé plus éclectique et plutôt globalement de bonne qualité. Après, avec des ratés dont on a parlé, entre autres, Supermax ou Roblox.
Ah d'accord, Supermax, ça t'a pas plu
Non.
D'accord.
Okay. Voilà. Mais globalement une très bonne qualité de sélection cette année et du coup qui m'a beaucoup plus surprise et du coup j'ai encore envie de passer encore plus de temps ici pour regarder un maximum de séries et pour en profiter au maximum.
Ouais, je me suis plaint. Le premier soir, ma pensée, c'était on a vraiment pratiquement que des formats mini-séries, en fait, et du coup, on n'a jamais le temps d'aller dans une histoire parce qu'on voit. En fait, je suis en train de regarder le soir tard, quand j'essaye de débrancher mon cerveau, je regarde Miss Fisher pour la 9e fois, et je regarde la première saison, et je me suis dit, putain, c'est une série, et ça se trouve, j'ai tort, parce qu'en plus, ça se trouve, ça a été. Mais je dis, ça, c'est une série qui pourrait jamais être un Cérémania. Et je me suis dit, quelque part, ce genre de série, le côté t'as un truc par épisode, c'est hyper agréable, et c'est pas qu'il y en a pas. Mais c'est moins dans la sélection, c'est moins dans le panorama, c'est moins dans les trucs, on va dire, prestigieux de la, du truc. Et du coup, j'avais ce problème-là. Et en fait, là, depuis quelques jours, je me dis oui, c'est vrai. Et en même temps, j'ai l'impression quand même d'avoir vu beaucoup de trucs qui n'étaient pas une enquête policière avec un enfant mort. Et du coup, entre Bellows and Us avec les robots, j'ai l'impression d'avoir plein de trucs très différents, avec des histoires très différentes. Et du coup, je suis assez d'accord. Avec ton truc, c'est très éclectique et c'est très agréable. Et moi, c'est vrai que c'est vraiment qu'en plus, je voulais regarder tous les trucs français parce que je voulais m'intéresser
Ans. Je voulais zapper tous les trucs français.
Mais moi, parce que vu que je critique beaucoup, je voulais essayer de voir ce qui se faisait. Comme tous les ans, je me dis, cette année, je vais voir qu'il y a eu des changements dans l'industrie, voyons quelles sont les boîtes de prod, tous les trucs. Et en fait, j'ai découvert que finalement, la langue russe et allemande étaient finalement mes meilleurs amis, alors que j'ai rigolé toute la journée en disant j'ai passé des années à regretter de ne pas parler suédois, et maintenant enfin le fait de parler russe et allemand est bon pour ma vie de cinéphile. Et notamment moi ce matin j'ai vu Salam Moscou et ça m'a énormément plu.
D'accord.
Et voilà, donc après je pense que je vais parler à d'autres gens pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Et du coup j'ai fait l'interview de la scénariste qui ne parle pas très bien anglais. Et donc moi j'ai vécu en Russie il y a 20 ans, et en fait j'ai compris, enfin parce que parler c'est compliqué quand même, j'ai pas été depuis 20 ans, mais j'ai compris pratiquement tout ce qu'elle m'a dit, ce qui fait que j'ai très peu eu besoin de la traductrice pour me traduire ses réponses, et elle a plus ou moins compris que j'ai posé exprès les questions en anglais. Et du coup c'était totalement hallucinant parce que j'étais là, enfin je rentabilise sur mon russe. Et en regardant la série j'étais là, enfin j'étais très impressionnée par le... J'ai envie de dire par le côté cru, enfin cru dans le sens nature, réel, réaliste de cette série. Et du coup, ben, je me suis dit, mais c'est génial, ça veut dire qu'ils sont en train de faire un truc comme ça en Russie, c'est-à-dire que j'ai tout d'un coup tout un pan vers ce pays que même j'ai toute une histoire avec, auquel j'ai pas vraiment accès. Je me dis, mais en fait, ça y est, il y a des séries russes que je peux regarder, je vais pouvoir. Et donc voilà, donc moi, je suis partie comme d'habitude avec des attentes, et en fait, pour l'instant, ce festival s'avère me répondre sur des trucs radicalement différents. Qui sont les Russes et les Allemands.
C'est bien, il faut toujours se faire surprendre dans les festivals, de partir avec une idée préconçue. Et
oui, ça prouve qu'il y a un truc qui se passe dans le festival et dans la programmation. Toi, t'as vu Bellows and Us?
Oui.
Et ça t'a plu?
Oui, beaucoup. Mais ça fait, enfin, comme tout le monde, on a des références de Real Human qui avaient déjà été faites par avant. Mais
moi, j'ai pas regardé Real Humans en fait.
Moi, j'ai regardé personnellement, on va dire. J'ai pas tout vu, mais j'en avais vu une partie. Et là, j'ai vu juste un épisode de Bellows and Us.
Ah, parce que justement, le deuxième épisode avance l'histoire beaucoup, donc je me demande jusqu'à quel point le regard est différent en fait.
Ouais, sur le premier, en tout cas, c'était très bien, très touchant. Et justement, on avait vu quelques séries russes jusqu'ici à Série Manière. Enfin, j'ai plus de nom exact en tête, mais
il y a deux ans que j'avais beaucoup aimé, qui était le Mad Men russe.
Moi, j'avais été plus ou moins déçue sur les séries russes jusqu'ici. Et du coup, là, c'est vraiment la première série russe que j'aime bien. Donc,
La Salam Moscou, moi, vraiment, voilà. Bon, j'attends que les gens l'aient vu pour qu'on puisse en parler. Voilà, merci beaucoup.
Merci.
Capucine, ton Twitter.
Capucine Mercier, voilà.
Sans rien.
Je
vais demander le Twitter de Stéphane, mais en tout cas, merci. Puis bonne série, bonne fin de Série Mania. Ton Twitter pour.
Sérisiteur.
Épelle-le.
S-E-R-I-E-S-T. Voilà, E-A-T-R.
Non,
T-E-R. T-E-R.
S-E-R-I-E-S-E-A-T-E-R.
Voilà, c'est ça.
Ok. Bon, dites au revoir.
Au revoir. We feel the night is
upon us. We fall in you. Je vous demanderai peut-être. J'avais écrit une intro pour les autres podcasts, donc je vais peut-être la ripper pour ça. Ou pas. Je sais pas où c'est. C'est pas grave. Allez, on est parti.